Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bonjour et bienvenue dans Éveil et Sortilège, je suis Émilie, ravie de vous retrouver.
Et je suis Dorian, bonjour.
Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, on peut le dire, « Le mystère des cathédrales » de Fulcanelli, publié en 1926.
Ah oui, un livre qui bouscule un peu notre regard sur ces géants de pierre.
Complètement. Il nous propose une lecture radicalement différente.
Fulcanelli raconte d'abord son émerveillement d'enfant face à une cathédrale. Il la voit comme une œuvre plus divine qu'humaine.
C'est une belle image pour commencer.
Oui, mais son livre va beaucoup, beaucoup plus loin. Pour lui, ces édifices sont en fait des livres de pierre.
Des livres de pierre, c'est-à-dire ?
Des livres codés qui transmettent un savoir caché, un savoir hermétique, alchimique même.
D'accord, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu cette thèse assez audacieuse.
C'est ça, plonger dans ce langage secret des cathédrales selon Fulcanelli.
Alors, commençons par le début, enfin, par les mots. Il a une interprétation très particulière du terme argotique.
Oui, alors là, c'est assez surprenant. Il avance que gothique serait en fait une déformation d'art argotique.
Argotique, comme l'argot ?
Exactement. L'argot, vu comme une langue secrète, utilisée autrefois par, bon, les truands, mais aussi, selon lui, par les bâtisseurs initiés.
Les bâtisseurs des cathédrales.
Oui, qu'il relie aux argonautes, aux anciens initiés. C'est toute une filiation un peu mythique. Cet argot serait la clé, en quelque sorte.
D'accord. Et il fait un lien avec autre chose, non ? Une langue encore plus ancienne ?
Tout à fait. Il la connecte à la fameuse langue des oiseaux. Une sorte de langue primordiale, sacrée, qui permettrait de décrypter le sens caché des symboles, des mots.
C'est profond comme idée. Un langage secret incrusté dans la pierre.
Ben oui. Et ça prend tout son sens quand on pense à ce qu'était la cathédrale au Moyen-Âge.
Oui, c'était pas juste un lieu de prière, loin de là. C'était le centre de la vie.
Voilà. On s'y rassemblait, il y avait le marché, parfois on s'y réfugiait. C'était, comme il dit, une vaste concrétion d'idées.
Une encyclopédie de pierre, en somme.
C'est ça. Et parmi toutes ces connaissances, Fulcanelli affirme que la philosophie hermétique, l'alchimie, tenait une place centrale.
Et il donne des exemples concrets.
Oui, il parle beaucoup de Notre-Dame de Paris. Il dit que c'était un lieu de rendez-vous pour les alchimistes.
Ah oui, carrément.
Oui, selon d'anciens textes qu'il cite, comme ceux de Denis Zakaer ou Noël Dufaille. Il venait étudier les sculptures, essayer de déchiffrer les symboles.
Il y aurait donc des symboles spécifiquement alchimiques.
Il le soutient. Il mentionne par exemple une figure de l'alchimie sur le grand portail de Notre-Dame. Mais bon, la question se pose, pourquoi crypter tout ça ?
Oui, pourquoi ne pas l'écrire clairement si c'est si important ?
Peut-être pour le préserver ? Le réserver à ceux qui avaient les clés de lecture, justement, les initiés ?
D'accord, alors parlons de ces clés, de ces symboles. La Vierge Marie, par exemple, Notre-Dame.
Ah, la Vierge Mère. Pour Fulcanelli, elle est bien plus que la figure chrétienne.
Qu'est-ce qu'elle représente d'autre, alors ?
Elle symbolise la prima materia, la matière première de l'alchimiste, la substance initiale, la terre vierge sur laquelle l'alchimiste travaille.
Intéressant. Il fait des parallèles avec d'autres figures ?
Oui, avec Isis, la grande déesse égyptienne. Et aussi avec les vierges noires, qu'on trouve dans les cryptes.
Comme à Chartres, Notre-Dame sous terre.
Exactement. Pour lui, ces vierges noires sont un symbole encore plus direct de cette matière première occulte.
Et la structure même de la cathédrale, le plan en croix.
Alors là aussi, il y voit un symbole alchimique. La croix latine, pour lui, c'est l'hiéroglyphe du creuset.
Du creuset, le récipient de l'alchimiste.
Oui, en ancien français, on disait croisé ou crucible. Donc le lieu où la matière subit sa passion, sa transformation, sa mort et sa résurrection en quelque sorte.
Tout est lié donc. Et les labyrinthes qu'on voit parfois sur le sol ?
Pareil. Pas juste un dessin décoratif. Pour Fulcanelli, c'est l'emblème du travail de l'œuvre alchimique.
C'est-à-dire ?
Le cheminement. Oui, un cheminement long, complexe, avec des voies sans issue. Il faut trouver le bon chemin, affronter les difficultés au centre, puis ressortir. Grâce au fil d'Ariane, dit-il.
Le fil d'Ariane, encore une référence mythologique ?
Oui, qu'il associe à l'aimant, à la magnésie des alchimistes qui guident l'adepte.
Et les rosaces, ces grandes roues de lumière ?
Les roses, ou rota en latin, la roue, symbole du temps nécessaire à la coction, à la cuisson alchimique, et aussi du feu secret, le feu de roue.
Le feu qui transforme la matière ?
C'est ça. Il note même que sur certaines rosaces, on voit apparaître l'étoile des mages, le sceau de Salomon à 6 points.
Et ça, ça signifie quoi?
Pour lui, c'est le signe de la réussite, de la conjonction des principes alchimiques, de la mixtion parfaite.
C'est fascinant de voir comment chaque élément peut être réinterprété. Même les statues des saints.
Ah oui, il s'amuse beaucoup avec ça. Prenez Saint Christophe.
Celui qui porte le Christ à travers la rivière.
Oui, littéralement Christophoros. Mais Fulcanelli utilise ce qu'il appelle la cabale phonétique, un jeu sur les sons.
Et qu'est-ce qu'il entend, lui?
Il entend Chrysophoros, celui qui porte l'or.
Ah, d'accord. Donc Saint Christophe devient...
le symbole du soufre solaire, de l'or naissant, transporté sur les ondes mercurielles, l'eau vive des alchimistes. C'est assez fort comme réinterprétation.
Oui, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle. Mais il soulève aussi un point un peu triste, non, sur l'état de ces symboles?
Effectivement. Il déplore que beaucoup de ces sculptures, de ces détails signifiants, ont été détruits ou abîmés.
Par quoi?
Le temps. Le temps, oui, mais aussi le vandalisme, notamment pendant la Révolution. Et parfois des restaurations un peu maladroites qui effacent le sens originel. Il cite l'exemple du pilier Saint-Marcel à Paris.
Donc, lire ce livre de pierre, c'est aussi un peu comme reconstituer un puzzle dont il manque des pièces.
C'est exactement ça. Ce qui nous ramène au cœur de sa thèse. Les cathédrales comme des grimoires alchimiques.
Des encyclopédies écrites en langage argotique, symbolique.
Voilà. Un langage destiné aux initiés pour transmettre un savoir peut-être jugé trop puissant ou trop sacré pour être divulgué ouvertement.
En fait, Fulcanelli nous invite à regarder autrement ces monuments qu'on croit connaître.
Oui, à voir au-delà de la pierre, au-delà de la foi visible, s'il n'y a pas une autre histoire, une autre sagesse encodée.
Une sagesse qui nous parle encore.
C'est la grande question qu'il nous laisse. Est-ce que ces géants de pierre murmurent encore leurs secrets? Si on essaie de tendre l'oreille à ce langage des symboles, à cet argot, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apprendre aujourd'hui?
Une belle question pour terminer notre exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.
Et merci à tous de nous avoir suivis dans Éveil et Sortilège.
À très bientôt pour d'autres découvertes.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.